Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance.
La musique que je vous ai fait écouter au début de cette méditation, c'est le début du deuxième trio de Shostakovitch qu'il a écrit dans une période de détresse, d'épreuve, à l'époque où, en Union soviétique, peu de gens étaient libres. Je vous propose ça comme introduction pour notre méditation de ce soir. Donc nous poursuivons aujourd'hui le fil de ces méditations sur le thème de l'attente. Nous nous souvenons que le mot « avant » désigne l'advenue du Christ, l'arrivée du Christ, et que le temps liturgique dans lequel nous sommes entrés est le temps de la méditation sur l'attente de cette venue. Un certain nombre de textes bibliques nous sont proposés pour nos lectures les quatre dimanches de l'Avent. Ils nous parlent de quelque chose qui va advenir, de quelque chose qui va se produire. Et il nous place dans l'attente de cette arrivée. Nous poursuivons notre mise à l'écoute de ces paroles avec beaucoup de liberté. Et cela nous conduira à amorcer un long voyage à travers le temps. Et pour commencer, nous reviendrons 2016 ans en arrière. Et je vous invite à penser à cette jeune femme portant dans son ventre un enfant miraculeux, à quelques semaines de son terme. Une jeune femme attendant une naissance annoncée et sentant vivre sous sa peau cet être mystérieux qui remue, donne un coup de tête par ici, un coup de pied par là, un autre encore. Une jeune femme, bientôt mère, et qui joue avec son enfant à travers l'enveloppe de son ventre. Une jeune femme qui cherche à se figurer quelle vie attend cet enfant. Comme toute mère s'interroge sur ce qui attend celui ou celle qui va naître, comme tout père s'interroge sur ce qui attend l'enfant qui va naître. Rejoignant Marie, nous pouvons, nous aussi, nous placer sous le signe de cette attente et méditer ce don de Dieu qui nous attend et nous émerveiller de la façon dont la dimension la plus profonde de notre vie spirituelle rejoint l'une des expériences les plus physiques, les plus incarnées, les plus charnelles de la vie humaine. Et pensez à ce paradoxe étrange du Dieu qui prend chair sous la forme infiniment vulnérable d'un enfant à naître et que nous allons célébrer en fêtant Noël. Noël, Natal, naissance. Mais rappelons-nous aussi qu'entre le ventre de la mère et la sortie de l'enfant dans le monde extérieur, il y a le moment de l'accouchement, l'épreuve pour la mère du passage de l'enfant, et que l'image de cette épreuve de l'enfantement revêt parfois une dimension cosmique. Ainsi, pour Paul, nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit-Saint, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Ça, c'était l'Épître aux Romains. Mais si nous revenons maintenant à l'enfant lui-même qui va naître, cet enfant, l'Église nous a appris à en discerner l'annonce dans les paroles du prophète Isaïe, prononcées quelques 800 ans auparavant. Bon, je vais lire les textes en général dans la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible, auquel ont contribué des catholiques, protestants et orthodoxes dûment mandatés. Le texte que je vais lire n'est pas forcément celui auquel vous êtes habitués dans les lectionnaires, mais ce n'est pas très grave. Donc le Seigneur parle par la bouche d'Isaïe. Aussi bien, le Seigneur donnera-t-il lui-même un signe ? Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Cet enfant, dont nous parle Isaïe, il y a 2700 ans, est un signe donné par le Seigneur, un signe donné gratuitement. Gratuitement, malgré le roi Akaz, qui ne demandait rien, ce qu'on va voir tout de suite. Un signe qui est une personne vivante, un enfant dont le nom Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Un enfant à propos duquel nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question de « qu'est-ce que cela veut dire ? Comment Dieu est-il avec nous aujourd'hui ?» Mais avant de chercher une réponse directe à cette question, je vous propose un long détour en commençant par une relecture de ce passage du livre d'Isaïe dans son contexte. Donc, nous allons revenir un petit peu en arrière et voir un peu ce qui se passait avant qu'Isaïe ne se mette à parler. Les rois voisins du pays de Juda s'apprêtaient à marcher sur Jérusalem et Akaz, roi de Jérusalem, prend peur. Je lis « Alors, son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Donc, le Seigneur envoie Isaïe à la rencontre d'Akaz pour le réconforter. Je lis, « Tu lui diras, veille à rester calme, ne crains pas. » Isaïe va voir Akaz et lui tient un discours rassurant. Puis, il continue. Isaïe parle au nom de Dieu, donc le narrateur nous dit que par sa bouche, c'est Dieu qui parle directement au roi. Je lis, « Le Seigneur parla encore à Akaz en ces termes. « Demande un signe pour toi au Seigneur ton Dieu. Demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit, « Je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous d'épuiser la patience des hommes que vous épuisiez aussi la patience de mon Dieu ?» Et c'est alors, après cette parole d'Isaïe, que la naissance de l'enfant est annoncée. Arrêtons-nous non pas sur l'enfant, mais pour commencer sur le roi Akaz. Isaïe lui demande de demander quelque chose à Dieu. Et Isaïe formule sa demande avec la plus grande solennité. Demande-le au plus profond ou sur les sommets là-haut, comme une demande qui concerne l'ensemble de l'univers, du plus profond au plus élevé. Akaz refuse. Pour ne pas mettre Dieu à l'épreuve, dit-il. Cela mérite une explication. Qu'est-ce que c'est que mettre quelqu'un à l'épreuve ? C'est lui demander de faire quelque chose et de voir comment il le fait, ou de voir simplement s'il sait le faire. Dit un peu crûment, c'est voir ce qu'il a dans le ventre, pour voir où et comment il est capable de réagir, ce dont il est capable. Et bien sûr, on peut soumettre quelqu'un à l'épreuve, soit à des fins pédagogiques, pour l'aider, pour l'encourager, pour soutenir un travail d'apprentissage, ou au contraire par défiance, parce qu'on n'a pas confiance dans ses capacités de faire ce qui est attendu de lui. Commençons par la défiance. Et faisons un petit tour dans le livre des rois. La reine de Saba vient voir le roi Salomon, encore lui, pour ceux qui étaient là la dernière fois, dont elle a beaucoup entendu parler, afin de le tester, de vérifier si ce qu'on dit de lui et de sa sagesse est bien vrai. Elle n'a pas confiance dans les rapports qu'on lui en a faits. Et bien sûr, Salomon, nous le savons, s'en tire très bien. Mais la défiance peut prendre aussi des formes plus violentes. Ainsi, lorsque les Hébreux perdent confiance en Dieu au cours de la traversée du désert, ils se fâchent contre Moïse. Ils se plaignent violemment et ils exigent que Moïse réponde immédiatement à leur demande. Et Moïse leur reproche alors de vouloir mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire de ne plus avoir confiance dans la façon dont Dieu procède, de mettre en doute la sollicitude de Dieu à leur égard, de ne plus attendre rien de bon de la part de Dieu et de vouloir décider à sa place ce qui est bon pour eux. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 17, je lis « Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais ils n'avaient pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit « Pourquoi me querellez-vous ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte ? Pour nous laisser mourir de soif, nous, nos fils et nos troupeaux. » Moïse cria au Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël. Le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Cette histoire, elle est reprise de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode un peu plus loin, mais aussi dans le livre du Deutéronome et dans les psaumes. Ces différentes reprises sont l'occasion à chaque fois de rappeler au peuple son manque de foi et de lui rappeler aussi la patience et la constance du Seigneur. Le nom de Massa et Meriba est devenu dans le monde juif une expression toute faite qui désigne le doute, le manque de foi, le découragement. Et nous, combien de Massa et Meriba y a-t-il dans nos propres vies ? Combien de moments où nous n'attendons plus rien de Dieu. Mais ici, dans le récit du livre du prophète Isaïe, c'est le roi Akaz qui refuse de mettre Dieu à l'épreuve. Sûrement, elle connaît son catéchisme. Il n'est pas bien de vouloir mettre Dieu à l'épreuve. Loin de moi l'idée de vouloir faire comme les pères lorsqu'ils ont été pris de doute à Massa et Meriba. Mais justement, ce qui se passe ici, c'est le contraire. C'est Dieu qui propose un signe et Akaz qui refuse. On peut donc comprendre qu'Akaz ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires et qu'il cache son manque de confiance sous une déclaration hypocrite pour faire croire qu'il veut honorer Dieu, alors que justement, il n'a rien à faire du signe que Dieu veut lui envoyer. Il n'attend rien de Dieu. Et c'est bien ce que comprend le prophète. Encore une fois, tu manifestes ton manque de confiance dans ton Dieu. Et Dieu commence à en avoir assez. Et pourtant, Dieu persévère et donne quand même un signe. Il donne un signe qui n'est pas attendu. Et ce signe qui n'est pas attendu est la promesse d'un enfant. Un enfant qui, le moment venu, ne sera pas attendu par ceux au milieu de qui il naîtra. Donc, après ce long détour, nous sommes revenus, comme je vous l'avais promis, à la naissance de l'enfant. Tout à l'heure, à propos de cette naissance, nous avons fait une remarque à propos de l'accouchement. L'accouchement est une épreuve physique pour la mère. Dans l'accouchement, ce n'est pas Dieu qui est mis à l'épreuve, c'est un être humain, c'est l'un de nous dans la vie courante. Et peut-être est-il intéressant de regarder dans la Bible, à commencer par l'Ancien Testament, s'il y a des moments où Dieu met les hommes à l'épreuve. Et bien sûr, le point de départ, le premier, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. Et là, il ne s'agit pas d'une naissance, puisqu'il est demandé à Abraham de faire mourir son fils, Isaac. C'est le contraire d'une naissance. Et pourtant, ce fils Isaac, il avait eu tellement de mal à avoir ce fils, il avait attendu pendant tellement longtemps, jusqu'au moment où il n'attendait plus et au moment où sa naissance était absolument improbable. Bien sûr, nous connaissons tous la fin de l'histoire et nous savons qu'elle se termine bien. Mais la demande que fait Dieu à Abraham est quand même tout à fait claire. Lisons le texte de la Genèse. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit, « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes où je t'indiquerai. » Dont acte. Abraham obéit, et il emmène son fils et le bois de sacrifice sur le mont Moria. Il prépare tout, il lit son fils, et il lève son couteau. Lisons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien. » Car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Abraham alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Levant son couteau sur son fils et déliant les liens avec lesquels il l'avait attaché, Abraham, d'une certaine manière, coupe lui aussi le cordon ombilical qu'il attachait, peut-être trop fortement, à son fils bien-aimé, son unique. Et il laisse son fils, il laisse Isaac suivre le chemin qui lui est propre, sous le regard de Dieu. L'on peut dire que désormais, le destin d'Isaac est entre les mains de Dieu. Et cette épreuve à laquelle Dieu avait soumis Abraham et qui paraissait tellement incompréhensible, tellement insensée, voici tout d'un coup qu'elle revêt un sens nouveau et lumineux. De même, dans le désert, si les Hébreux se révoltent contre Dieu, c'est que l'épreuve physique de la traversée du désert est trop rude pour eux. Avec ces différentes histoires, nous voyons commencer à se dessiner tout un jeu d'interaction entre Dieu et nous autour de l'épreuve, autour des attentes respectives de Dieu et des hommes qui s'articulent autour de l'épreuve. Mais ce n'est pas tout. Un dernier coup d'œil au livre de l'Exode nous donnera peut-être un éclairage complémentaire. L'histoire se passe dans le désert, un peu avant le passage que nous venons de lire, avant Massa et Meriba. Le peuple vient de quitter la mer des gens, au tout début de la traversée du désert. Il a soif, très soif. Il semblerait qu'avoir soif soit une constante de la marche à travers le désert. Il marche et il arrive enfin devant le point d'eau de Mara. Mais l'eau de Mara est saumâtre et imbuvable. Lisons. Moïse fit partir Israël de la mer des gens et ils sortirent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours au désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et des coutumes, c'est là qu'il les mit à l'épreuve. C'est là qu'il les mit à l'épreuve. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'épreuve à laquelle Dieu les soumet n'est pas d'avoir à continuer leur marche. De toute façon, ils seront bien obligés de poursuivre leur chemin. Non, l'épreuve, ici, c'est d'avoir à prêter attention à la parole de Dieu, au commandement qu'il charge Moïse de leur transmettre. Lisons. Si tu entends la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi, le Seigneur, qui te guéris. Donc, on peut dire qu'il s'agit ici d'une mise à l'épreuve pédagogique. Au cours de ta marche, au cours de ta vie, prête l'oreille à la voix du Seigneur, prête l'oreille à ses commandements, cela t'accompagnera dans le droit chemin. Avec cette dernière remarque, il semblerait que nous ayons fait un vaste tour d'horizon de la notion d'épreuve dans l'Ancien Testament. Et pourtant, ce n'est pas tout, car ce mot d'épreuve est le mot que nous répétons tous les jours quand nous disons le Notre Père, comme nous venons de le dire. Ne nous soumets pas à la tentation, qu'il vaudrait mieux traduire plus exactement par « ne nous soumets pas à l'épreuve ». Oui, c'est le même mot, en hébreu « nasa », en grec « peirasmon », c'est ce même mot qui est dans le Notre Père. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de ne pas nous soumettre à l'épreuve. C'est une demande que nous faisons, mais il n'est pas du tout exclu que Dieu veuille quand même nous soumettre à l'épreuve, que notre relation à Dieu s'articule autour d'une mise à l'épreuve. Et à ce propos, nous pouvons bien sûr penser au Christ à Gethsémané. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, non, pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Chaque fois que nous prions notre Père, nous pouvons nous rappeler cette parole du Christ à Gethsémané et méditer le don qu'il nous a fait de lui-même. L'épreuve a quelque part sa place dans ce qui se passe entre Dieu et nous, entre Dieu et nos frères et sœurs, proches ou lointains. Et notre prière peut aussi demander à Dieu de leur épargner l'épreuve ou, s'ils sont dans l'épreuve, de les y accompagner, peut-être de la façon la plus secrète et la plus profonde. Mais ce n'est pas nous qui décidons, ni nous qui jugeons. À ce propos, je ne peux pas m'empêcher de vous lire quelques phrases de Simone Veil dans la dernière lettre qu'elle a écrite au Père Perrin le 26 mai 1942, un peu plus d'un an avant sa mort. Et je lis ces phrases avec crainte et tremblement, m'autorisant à les lire en m'effaçant derrière celle qui les a écrites et en les donnant à ceux d'entre nous qui se trouvent dans l'épreuve eux-mêmes ou leurs proches. Je lis. Si on tombe en persévérant dans l'amour jusqu'au point où l'âme ne peut plus retenir le cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si on demeure en ce point sans cesser d'aimer, on finit par toucher quelque chose qui n'est plus le malheur, qui n'est pas la joie, qui est l'essence centrale, pure, non sensible, commune à la joie et à la souffrance, qui est l'amour même de Dieu. On sait alors que la joie est la douceur du contact avec l'amour de Dieu, que le malheur est la blessure de ce même contact quand il est douloureux, et que le contact lui-même importe seul, non pas la modalité. Voilà peut-être une illustration extrême de ce que peut vouloir dire, de la façon la plus absolue, la plus extrême, Dieu avec nous, Emmanuel. Emmanuel, le signe annoncé par Isaïe au roi Akaz, Dieu l'a donné 700 ans plus tard, gratuitement, malgré l'indifférence et le manque de confiance des hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis la naissance du Fils de Marie, Dieu est avec nous. Nous avons vu, avec la page de Simone Veil que nous venons de lire, de quelle façon extrême cette présence de Dieu pouvait être vécue au temps de l'épreuve. Mais pour nous, de notre vie de tous les jours. Et s'il est déjà avec nous, que nous reste-t-il à attendre? Peut-être une façon de nous représenter cette présence de Jésus avec nous dans notre vie de tous les jours, nous pouvons l'imaginer dans l'expérience du rendez-vous amoureux. Évidemment, je ne sais pas si les choses se passent toujours comme ça dans le monde d'aujourd'hui, mais cela évoque sûrement quelque chose pour beaucoup d'entre nous. Vous avez donné rendez-vous pour la première fois à la personne dont vous avez découvert que vous l'aimiez et vous attendez l'heure du rendez-vous. Et vous avez de bonnes raisons de penser qu'elle viendra, et néanmoins, tant qu'elle n'est pas là, la question subsiste. L'ouverture, l'expectative, viendra, viendra pas. Vous réalisez que c'est elle que vous aimez, elle en tant que personne, non pas telle ou telle de ses qualités, mais elle-même. Et pourtant, vous ne cessez de vous la représenter en esprit, faisant ceci ou cela, marchant, tournant la tête vers vous, vous souriant, vous parlant. C'est sa présence en tant que personne qui à chaque fois se présente devant les yeux de votre imagination, mais toujours à chaque fois en train de faire quelque chose. Votre journée avance, vous vaquez à vos occupations, votre travail vous absorbe, vos conversations avec les uns ou les autres se poursuivent, et pourtant, toujours en arrière-plan, se trouve l'image de la personne aimée comme un fil rouge qui traverse votre journée entière. Et l'attente du moment des retrouvailles vous tient en haleine, donne une couleur, une saveur toute particulière à cette journée, à tous les instants de cette journée. Vous n'avez jamais vu le Christ, vous ne savez pas vraiment à quoi il ressemble, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et pourtant, il vous a laissé son évangile, des récits de sa vie, un recueil de ses paroles. Et ces récits et ces paroles vous reviennent à l'esprit et sous-tendent votre vie comme l'attente d'une rencontre, comme l'attente des retrouvailles. C'est ce que certains appellent l'attente de Dieu. C'est d'ailleurs le titre du livre de Simone Veil. Mais si je dis l'attente de Dieu, l'on peut comprendre cette phrase de deux façons. Soit c'est moi qui attends la venue de Dieu en moi, soit c'est Dieu qui, dans son amour pour moi, attend mon oui. Je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse. Merci.
Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance.